Radio 1. Premier sur l'info, l'info locale.
Il est tout juste midi, vous écoutez Radio 1, la première FM de Tahiti, place à l'info locale avec les titres présentés par Wallis Glaise. Bonjour Wallis.
Bonjour Benny et bonjour à tous. Trois suspicions de cas de Covid-19 sur un bateau péruvien. Ils seront pris en charge dès leur arrivée à Nuku'iwa aux Marquises aujourd'hui par le SAMU. Les détails dans quelques instants. Les contrevenants qui n'ont pas respecté les mesures de confinement et de couvre-feu et qui ont été verbalisés auront la possibilité de convertir leur incivilité en solidarité vis-à-vis des plus démunis. Les précisions bien sûr dans cette édition. Le Conseil des ministres a modifié hier par arrêté le protocole sanitaire qui encadre les arrivées en Polynésie française, les quatorzaines à domicile finalement autorisées, mais sous certaines conditions.
Trois cas suspects de Covid-19 à bord d'un navire de pêche en approche des Marquises.
D'après nos confrères de TNTV qui ont révélé l'information, des cas suspects de Covid-19 ont été détectés à bord d'un bateau de pêche en provenance du Pérou. Ils se dirigent actuellement vers les Marquises. De la fièvre pour deux d'entre eux et une détresse respiratoire pour le troisième, considéré comme étant en urgence vitale par les autorités. Interrogé hier en fin d'après-midi, la cellule sanitaire Covid-19 du pays n'a pas souhaité apporter des précisions sur le sujet. Toutefois, le docteur Jean-Marc Ségalin, médecin attaché à la direction de la santé, explique seulement qu'il s'agit d'une première.
Écoutez, là je crois que c'est une première. Il y a effectivement ce cas dont on a été informé. Je n'ai pas beaucoup de précisions à apporter à ce sujet. Il y a des procédures qui ont été préparées à la fois par le centre 15 et par le pays et cette hypothèse a déjà été travaillée. On a les moyens d'effectuer ces mesures parce qu'il s'agit en fait de sauver des gens avant tout et de le faire en toute sécurité.
Les membres de l'équipage doivent arriver dans la journée à Nuku'iwa. À leur arrivée, ils n'auront pas le droit de descendre à terre. Une équipe médicale montera à bord pour tester toutes les personnes présentes. Les trois cas suspects seront, quant à eux, évacuées vers l'hôpital de Taoné.
Le ministre de la Santé satisfait de cette rentrée des classes.
C'est justement pour constater le respect des règles sanitaires que la ministre de l'Éducation, Christelle Leurtel, a visité plusieurs établissements ce matin, à commencer par le centre scolaire adventiste de Tiarama à Papeete. La ministre rappelle que la DGE n'avait fixé qu'un cadre général avec son protocole sanitaire. Chaque établissement était libre de les adapter. Écoutez-la.
On a laissé la main au chef d'établissement, que ce soit du premier degré, du second degré, des écoles publiques ou privées, d'aménager leur établissement de manière à respecter le protocole sanitaire. Ils avaient tous un cadre général à respecter et en fonction des établissements propres, ils ont dû s'adapter. Donc vous avez vu par exemple ici, en fonction du nombre d'élèves, en fonction de la structure de l'établissement scolaire, ils se sont adaptés pour respecter les gestes barrières.
À Tiarama, il a fallu 2 semaines au total de travail pour préparer cette rentrée et qui s'est plutôt bien déroulée d'après le directeur de l'enseignement adventiste Yann Adjé.
En fait, là, la difficulté, c'est qu'au niveau des parents, ils comprennent pas forcément qu'il y ait, voilà, des demi-journées ou alors qu'il y ait 2 jours par semaine simplement d'école. Parce qu'effectivement, au niveau organisation, c'est un peu compliqué. Bon, certains ont la possibilité de venir toute la semaine. Mais pour d'autres, parce qu'ils sont en groupe, en classe dédoublée, eh bien, ils viendront que 2 fois par semaine, par exemple. Pareil au secondaire. Lorsque les classes n'ont pas atteint leur seuil, ils peuvent venir toute la semaine. Quand on doit dédoubler, malheureusement, on dédouble le temps de présence aussi. 2 jours pleines, par exemple, lundi, mardi, puis les 3 autres jours, puisqu'il y a des demi-journées, ça sera pour l'autre groupe. Donc, ça demande une organisation. Même pour les familles, du coup.
Côté élèves, justement, beaucoup se disent satisfaits de retrouver leur classe et leurs camarades. Tous n'étaient pourtant pas présents. D'après les chiffres de la DGE, publiés hier soir, environ 20% des élèves du public étaient présents à l'école lundi. Des chiffres satisfaisants, toutefois, estime la ministre.
Oui, alors il y a eu une grande confusion des chiffres. Il faut faire très attention. Vous savez que depuis la reprise, on demande que la moitié des effectifs. Donc il faut se baser sur les effectifs de moitié. Et moi, je vais dire personnellement, je suis quand même contente du chiffre parce que je suis tout à fait consciente que pour les élèves, comme pour les parents d'élèves, on est tous un petit peu inquiets, on cherche à savoir exactement comment ça va se passer. Et le fait de faire cette petite rentrée échelonnée progressivement, ça va rassurer les parents.
À noter enfin que c'est toujours la continuité pédagogique qui s'applique dans les classes. Les enseignants font le bilan avec les élèves des semaines de confinement. Des moments forts, explique une enseignante même. Certains ont vraiment besoin de parler, ont des questions sur l'épidémie ou sur la situation et on essaie de leur répondre.
Les quatorzaines à domicile finalement autorisées, mais sous conditions strictes.
Effectivement, le Conseil des ministres a modifié hier par arrêté le protocole sanitaire qui encadre les arrivées en Polynésie française. Si la quatorzaine en site dédié est toujours la norme, la possibilité d'une quatorzaine à domicile a été ajoutée pour se plier aux décisions de justice récentes et à la législation nationale. Enfin, les voyageurs qui peuvent rentrer, qui veulent rentrer chez eux et dès leur arrivée, devront préalablement justifier d'un domicile adapté à Tahiti et n'abritant aucune personne vulnérable. À noter également que les personnes autorisées à effectuer leur quarantaine à domicile ne peuvent regagner celui-ci que par véhicule sanitaire agréé. Au terme de l'arrêté, impossible a priori donc d'aller chercher un proche à l'aéroport.
Le procureur général près la cour d'appel de Papeete, accompagné du président du pays et du haut commissaire, ont annoncé la mise en place d'un dispositif relatif au non-respect des mesures de confinement.
Si vous avez été verbalisé entre le 20 mars et le 27 avril pour avoir enfreint les règles du confinement ou du couvre-feu, vous aurez le choix de payer votre amende ou de faire un don à la Croix-Rouge. Environ 7000 contraventions ont été établies par la gendarmerie et la police durant toute cette période. En échange d'un don minimal, donc de 5000 francs à la Croix-Rouge, les contrevenants évitent des poursuites pénales. Transformer ces incivilités en solidarité pour les plus démunis, c'est l'idée de l'avocate générale Brigitte Angibault. Je vous propose de l'écouter au micro de Pascal Bastianachi.
Je crois que la période de crise favorise finalement des idées un peu hors normes. Et c'est vrai qu'à une situation exceptionnelle, qui était quand même celle de la pandémie, la justice se devait d'avoir elle-même une réponse hors normes. Cette réponse hors normes, elle est née de la confrontation finalement de gens qui, par leur comportement, se sont mis un peu en marge d'un comportement citoyen. D'autres gens qui, pendant les mêmes temps, avaient besoin, du fait de la pandémie, de plus de solidarité. Donc, en fait, en rapprochant les uns et les autres, j'ai considéré que c'était finalement une bonne manière de les sanctionner au premier sens du terme, c'est-à-dire, vous qui, à un moment donné, n'avez pas eu un comportement adapté, montrez-vous solidaire vis-à-vis des autres.
Les sommes d'argent versées à l'organisation caritative serviront à acheter des paniers alimentaires et d'hygiène. Depuis, il faut savoir, le 23 mars, début du confinement, ce sont 9 millions de francs qui ont été utilisés à ces fins sur un budget de 11 millions au total. Inutile de préciser que la Croix-Rouge voit cette opération d'un très bon œil. Écoutez Carl Lys, président de la Croix-Rouge en Polynésie.
Aujourd'hui, on a déjà dépensé plus de 9 millions déjà sur un budget de 11. Donc vous voyez bien qu'il ne reste plus que 2 millions de budget. Donc toute l'aide que pourront donner les contrevenants en venant faire leurs dons, ce sera vraiment appréciable parce qu'on pourra continuer justement à mettre en place ces colis alimentaires et d'hygiène auprès des plus démunis. On va faire ça jusqu'à fin juin et à partir du 1er juillet, l'argent va abonder nos épiceries solidaires parce que vu la situation économique, malheureusement, on est quasiment certain qu'il va y avoir une très grosse demande sur le second semestre.
Les dons pourraient être faits du 20 mai au 31 août, soit en espèces au siège de la Croix-Rouge directement, soit par un chèque. Une fiche devra être remplie par le contrevenant et validée par la Croix-Rouge qui servira de preuve au versement du don. L'imprimé est à télécharger notamment sur le site de la cour d'appel ou à découper dans la presse.
L'association culturelle Venfa et le collectif Ohana lancent en partenariat avec Radio 1 et Thiers FM l'opération Tous solidaires avec nos enfants.
Collecte alimentaire, dons de masques ou de vêtements, aide aux matayapo ou aux sans-abri. L'épidémie de coronavirus a été marquée par plusieurs appels à la générosité pour les organisateurs de Tous solidaires avec nos enfants. L'idée, récolter des dons via la billetterie Ticket Pacifique. Objectif, offrir du matériel pédagogique et numérique à des écoles et qui accueillent des enfants de famille modeste. Le président de l'association Venfa, Patrick Young, insiste sur les besoins énormes aux Fénois au micro de Charlie René.
On s'est rendu compte avec cette crise sanitaire que l'accès à continuité pédagogique n'était pas forcément évident pour tout le monde. On a vu justement qu'il y avait une fracture numérique et on souhaite un peu apporter justement une contribution à réduire cette fracture numérique avec ces récoltes de dons qui vont servir principalement à équiper quelques écoles qui ont beaucoup d'enfants justement dans le besoin de tablettes parce que le monde demain est vraiment technologique et on aimerait que certains enfants ne soient pas mis au bord de la route.
Le collectif Ohana, de son côté, apporte à l'opération sa connaissance du terrain. Lancé en 2011, ce collectif encourageait les élans de générosité pendant les périodes de Noël. Écoutez justement la fondatrice du collectif Ohana, Natalia Germain.
Le collectif existe depuis 2011 et nos actions se font principalement pendant Noël, les périodes de Noël, par des jouets mais aussi des vêtements et autres pour les familles défavorisées. Ce qu'on a pu aussi faire pendant les tirées, offrir des tickets de manège ou même des journées plage avec ces enfants-là. L'avantage pour le collectif Ohana, c'est d'avoir l'expérience sur le terrain. Du coup, je peux cibler un peu les familles qui restent dans le besoin parce que, hélas, on a toujours des quartiers où les enfants sont défavorisés. Et puis, ça a pu bien se voir, voire mieux se voir depuis qu'il y a eu ce confinement.
Chaque donateur peut choisir de contribuer sur le site directement à hauteur de 1000, 2000, 5000, voire même 10 000 francs. Ceux qui préfèrent toutefois faire des dons par chèque ou en espèces peuvent s'adresser directement dans les points de vente du réseau Ticket Pacifique au carrefour Punaoya, Aruefa ou encore Taravao, ainsi bien sûr qu'à Radio 1 à Faré Outé. Voilà, s'achève ce journal, il est midi et 10 minutes.